sous le béton, la sève. Un podcast produit par l'ADEAC. Avec les voix de Marc-Henri Boisse et Emma Deschandolles. Épisode 2.
On est au courant de rien. On ne sait pas ce que va devenir notre quartier, tout simplement. Ils veulent tout transférer aux nouveaux logements qui sont en construction. Ils veulent le faire habitation, commerce et parking en sous-sol. Et ici, le mail, ça ne sera plus rien.
Oui, il y a eu beaucoup d'arbres abattus. Puis les jeux, quoi. Les jeux pour nos enfants et pour la suite, quoi.
Moi, j'ai su par hasard. C'est un ami à moi qui se préoccupe beaucoup de tout ce qui se passe au niveau de Chartres.
Ouais.
Et un jour, il me dit, oh, bah, tu vois, l'espace vert qui est derrière, il va être saccagé parce qu'il va y avoir des constructions qui vont faire que l'espace de jeu derrière, où maintenant, bah, il n'y a plus rien. En plus, on est en plein soleil. Nous, on joue au boule, on joue ici, dans l'allée du Forum. À savoir, est-ce qu'elle continuera à avoir vie, cette fameuse allée.
On avait un espace où les jeunes pouvaient venir s'amuser, faire des pique-niques, et aussi faire de la musculation, enfin du jeu, des sports et beaucoup de choses. Aujourd'hui, à part regarder les grues et les travaux se monter, on ne sait plus où aller, quoi, en fait. Et on se demande jusqu'où ça va aller, quoi, en fait.
Ça nous a été imposé, on n'a jamais été consulté. On s'est retrouvés devant des faits accomplis, qu'il y allait y avoir une construction qui allait se faire. Bon, je ne suis pas contre, mais ils nous bouffent tout ce qu'on pouvait avoir pour les gamins. Les gamins, ils ont quoi? Ils n'ont plus rien maintenant. Hein.
Et je reviens sur ce que disait Lise, sur des travaux qu'on effectuait sur des jeux ou même des constructions de jeux de pétanque qui ne mènent à rien, en fait. Des jeux pour les enfants où les gamins, ils peuvent pas jouer parce que c'est en plein soleil, quoi. Il y a eu des pétitions, de fait, par rapport aux travaux qui sont réalisés aujourd'hui avec le consentement du maire, mais certainement pas des riverains, pour moi. Tout ce qu'ils vont casser ou détruire ou même nos pauvres arbres qui nous restent, j'espère qu'ils nous le laisseront, c'est tout, quoi.
Je m'appelle Olivier Maupu, je suis urbaniste dans un cabinet d'études. On est à l'angle des avenues Pichard et Sablon, on n'est pas loin de l'arrière, ça donne juste à l'arrière du centre commercial Carrefour. Et on avait là, sur plus d'un hectare, le principal poumon vert de la Madeleine, du quartier de la Madeleine, qui est un quartier d'habitat social très dense, où justement l'intérêt était évidemment éminemment de préserver cet espace vert, arboré, très apprécié des habitants qui venaient pique-niquer dedans.
Lise et Jimmy, que vous venez d'entendre, sont du quartier de la Madeleine. Comme je les comprends. Leur voix résonne entre mes branches, leur colère, leurs inquiétudes. Ils parlent de leurs jardins disparus, de leurs squares effacés, de leurs ombres perdues. Et moi, je me tiens là, silencieux, écoutant les bruits de béton et de scie. Tandis que quelque part, dans les bureaux et les cartes, on parle déjà de cette terre, de ce qu'elle vaut, de ce qu'elle peut rapporter. Vu de haut, dit le maire de Chartres, c'est un immense parking avec beaucoup d'espace de stationnement. Si on valorise tout ça, c'est un paquet de millions qui vont rentrer dans les caisses de la ville. On est assis sur un tas d'or.
Là où les habitants parlent d'aménité, d'espace vert, d'espace de respiration, le maire parle d'un tas d'or. Et il a construit là un projet tout en béton de environ 135 logements, entièrement bétonnés, parking souterrain en dessous. Et on a là la disparition du principal poumon vert du quartier de la Madeleine. Et on rencontre ça sur un autre secteur, à côté du gymnase Roscoff. On est rue Jules Hetzel à la Madeleine aussi. Là encore, un espace vert de transition entre le quartier des Hauts-de-Chartres et de la Madeleine, où on avait un espace vert intéressant, arboré, un bel espace vert. Pareil, il y a une opération qui est en cours de construction, tout est en train de disparaître.
Oui, un tas d'or pour certains, mais pour d'autres, pour les poètes, les enfants, ou simplement pour celui qui aime l'ombre et la fraîcheur. Un arbre n'est pas une marchandise. Samivelle l'avait bien compris quand il écrivait « Un chêne, digne du Poussin ou de Chateaubriand, devient X tonnes de bonnes planches au sentiment d'un patron de scierie. » Il s'agit d'une cécité mentale acquise, et elle entraîne la disparition de nombreuses sources de joie. Le privilège associé aux premières années réside dans une vision pure et cristalline, antérieure à tout jugement conditionné, où chaque objet est traité avec un respect instinctif, apprécié pour lui-même et indépendamment de toute hiérarchie utilitaire, où une feuille morte échappant à l'éthique du râteau et du balai murmure ses confidences dans la même langue que les étoiles. C'est en ce sens que peut s'entendre la remarque fameuse à propos de la nécessité de redevenir comme un petit enfant pour rentrer dans le royaume des cieux. Cette proposition ambiguë continue à susciter de nombreux ricanements. Aussi, l'Europe cartésienne est-elle encombrée de zombies.
De la place du Cygne. Nous ne souhaitons pas qu'il soit abattu et nous non plus, nous ne sommes pas abattus. Nous allons continuer le combat et nous avons besoin de vous, de tout votre appui, de tout votre soutien parce que ces arbres font partie de notre patrimoine naturel. On est habitué à vivre à leur côté, à passer régulièrement sous leurs branches, sous leurs feuilles. Et bien les voir disparaître, c'est une mort à petit feu. Et nous mobilisons pour que ces arbres... Eh bien, qui constituent...
Place du Cygne, 2016. À quelques centaines de mètres de mes racines, 16 tilleuls se tiennent encore debout, place du Cygne. Ils donnent de l'ombre. Ils donnent du refuge. Et sous leurs branches, des habitants se sont levés pour tenter de les sauver des tronçonneuses.
Il y a également deux associations nationales de la sauvegarde du patrimoine qui nous...
Argument de la mairie, les caves et la maladie. Comme pour les robiniers de la cathédrale. Et François Roumet de nous dire...
Sur la place du Cygne, ce sont les mêmes arguments qui ont été pris, à savoir les caves pour le sous-sol et pour la maladie des tilleuls. La maladie des tilleuls, moi, je ne l'ai pas constatée. Au contraire, les tilleuls paraissaient en très bon état et c'était une place où il faisait très frais en plein été. Et c'était même très agréable. Aujourd'hui, si on y va, là, il fait chaud, on ne va pas rester très longtemps. Donc les arbres qui ont été mis sont des arbres tous différents les uns des autres, à bonne distance les uns des autres, ce qui fait qu'on est plutôt au soleil qu'à l'ombre, comme autrefois. Bon, à chaque fois, c'est les mêmes arguments qui reviennent, l'état de santé et ce qui se passe en dessous. Donc, à chaque fois, ce sont des arguments qui sont invérifiables, où on doit croire sur parole la personne qui donne l'information. Donc, on doit croire l'expert, et on doit croire après la mairie qui nous dit « Vous voyez bien, ils étaient malades, etc. » Ben, c'est pas si vrai que ça, quoi. Les arbres de la place du Cygne n'étaient pas en mauvais état. Il y en avait un ou deux qui n'étaient pas beaux, mais c'est tout.
10 ans ont passé. Aline se souvient de ces semaines intenses de lutte, de partage, de colère et joie, des hauts et des bas.
Je me souviens très bien de l'épisode des tilleuls de la place du Cygne, un épisode douloureux pour nombre de Chartrains. Sur cette place, il y avait 16 tilleuls assez imposants qui apportaient dans cet hypercentre l'agrément de ce qu'on appelle aujourd'hui un îlot de fraîcheur, qui en plus sur le plan esthétique présentait une belle unité, d'autant plus que les tilleuls sont des arbres qui viennent vraiment de nos régions, qui sont résistants, qui sentent bon. Et lorsqu'il a été question de les abattre, il y a eu une incompréhension de la part des riverains et de la part de l'ensemble des chartraines et des chartrains. Donc la raison invoquée, c'était que les racines de ces tilleuls abîmaient le pavage, ce qui était sans doute vrai. L'objectif numéro un, c'était d'avoir un pavage parfait, sans aspérité. Et là encore, il y a des solutions pour répondre à ça. C'est-à-dire qu'en effet, si on met des pavés à 10 cm des arbres, ça ne va pas. Donc il pourrait y avoir un périmètre. D'ailleurs, c'est ce qui se fait aujourd'hui à Paris. On a enlevé les grilles et maintenant on laisse pousser les herbes pour préserver la biodiversité. Et on voit bien qu'au pied des arbres, il peut y avoir en fait quelques petites herbes spontanément, sauvages, etc. Donc il ne s'agit pas de supprimer tout le pavage de la place, bien évidemment, mais peut-être de le réenvisager. Et puis il y avait peut-être un entretien à faire. Mais je me souviens aussi de l'absence de dialogue et de concertation pour envisager d'autres solutions que l'abattage de cet ensemble d'arbres, encore une fois, dans l'hypercentre, ce qui était vraiment un atout. Il y a donc eu une mobilisation spontanée qui a duré 6 mois et qui manifestait la tristesse des gens et aussi d'échanges autour de la question du dérèglement climatique, de la nécessité de préserver des arbres, de vieux arbres, mais qui étaient en bonne santé, hein, par ailleurs. Un collectif s'est constitué, mais il n'a pas été écouté.
Ami, entends-tu le murmure des tilleuls sur la place? Ami, c'est la peur que pour un projet urbain, on les arrache. C'est vital. Oh, et protégeons nos tilleuls des bûcherons et de leurs armes.
Il y avait une chanson, vous aviez écrit une chanson à Londres. Ça te dit quelque chose?
Je crois que j'ai vraiment tout refoulé. C'est gravissime. Du fait de sensibiliser les gens à la cause de cet abattage qui nous paraissait fou. Et jusqu'au bout, on s'est dit que ça ne pouvait pas se faire.
À l'occasion de retrouvailles autour d'un café, Nathalie et Alexia réunissent leurs souvenirs respectifs de ce combat auquel elles avaient cru de toute leur force. Nathalie, elle, était présente le jour de l'abattage. Depuis, la musique infernale des tronçonneuses est insupportable à ses oreilles. Et sa mémoire a préféré occulter certaines choses.
On s'est beaucoup réunis chez moi. On a imaginé des choses improbables. Toujours quand même dans la non-violence, c'était notre esprit. Et puis aussi des choses qui permettaient aux gens de pouvoir parler, de s'inscrire dans le projet et la rencontre. Et puis la contestation collective. Tous ces rassemblements, c'était important.
Et quand tu dis des choses poétiques, créatives, qu'est-ce que c'était ?
Ben, on a en fait entouré les arbres à un moment donné de laine, de choses qui ne soient pas dangereuses déjà pour les passants. Mais un dimanche soir, on est allé faire un espèce de canevas autour de tous les cestrons pour les mettre ensemble, pour les lier. Mmh. Il y a une amie qui a carrément fait un pullover pour l'arbre, un très très beau pull. Qui avait pris un grand morceau du tronc. Bon, le lendemain, il n'était plus là. Il a dû plaire à quelqu'un. Il y a eu aussi des textes. Les enfants ont écrit, ils ont dessiné. On a invité les gens à boire des tisanes de tilleul.
Oui, ça, je m'en rappelle.
Et à enverser des tisanes de tilleul les jours de marché, le samedi. Ça a permis d'inviter des gens, de discuter, d'avoir Alain Baraton qui puisse prendre la parole sur France Inter, de rencontrer Monsieur Fitterman.
Monsieur Fitterman, c'était ?
C'est un responsable des espèces d'arbres remarquables.
Non, il y avait quand même le soutien de personnes calées, quoi.
Il est venu nous soutenir et faire un discours. On a rassemblé beaucoup de monde autour de lui. Même lui, il n'y croyait pas à cet abattage. Il trouvait que c'était tellement insensé que ça ne pouvait pas être réel.
Encore moins. On a affaire ici à des tilleuls, et j'ai vu une affiche que Claire a dans le dos ici, qui dit des choses très intéressantes. Le tilleul, c'est un arbre symbolique quand même. Je ne sais pas s'il a été mis ici dans cet esprit-là, mais c'est vrai que c'est un arbre de la liberté dans beaucoup de communes de France. C'est un arbre qui est utilisé pour servir de point d'abri à beaucoup de places de village, et ceci à travers toute la France. Et donc, pourquoi aller enlever des arbres comme cela? Alors, là, j'ai une réponse de la municipalité qui m'a dit « Comment on risque de les abîmer ?» D'abîmer les racines en faisant des travaux, autant les enlever. Alors là, j'ai un petit peu de mal à saisir la logique de l'affaire.
Je me rappelle, il y avait un décalage entre ce côté très festif et l'enjeu. C'est ça qui sautait aux yeux, en fait. Il y a quelque chose du rassemblement et qui pouvait donner espoir, en fait.
Et oui, et parce que quand on est dans la créativité ou dans la création, on est dans le jeu, on est dans l'enfance, on était dans la joie, dans tout ce que ce vivant nous procurait de joie. Mmh. Et en face de nous, on entendait « mais en fait, vous êtes irrationnel, ce sera coupé ». On a été très en colère au bout d'un moment, en voyant que toutes nos actions, elles étaient tournées au ridicule. Quand on était 100, la municipalité disait qu'on était une vingtaine. Donc oui, ça a été...
Et du mensonge, tu veux dire douloureux. Il y a des choses qui étaient détournées.
Je pense que c'était de la condescendance.
Et pourtant, M. Baraton démontre bien que les propos de la municipalité ne tiennent pas la route, en fait. C'est des arguments qui ne sont pas cohérents, quoi, par rapport au projet. Donc, vous n'étiez pas si irrationnel que ça, finalement.
Francis Allais, en tant que grand protecteur des cimes et des arbres, pour lui, notre histoire était une histoire sérieuse. C'était pas fou de faire un collectif contre l'abattage. Ce qui était fou, c'était les projets de la mairie. Mmh. Et Francis Allais, c'est quand même quelqu'un d'internationalement connu. C'est une pointure.
Et lui a fait une lettre à ce moment-là.
Oui, pour aussi peut-être éduquer une municipalité sourde. Mais ça n'a pas été... Certainement, ça n'a pas été retenu. Quoique, à chaque fois qu'il y a quand même des événements concernant des abattages d'arbres abusifs, on a quand même un maire qui replante, qui dit qu'on va offrir des arbres, qui dit que... Mais non, moi aussi j'aime les tilleuls, il nous a dit, M. Gorge, mais moi aussi j'aime les tilleuls, j'en ai un dans mon jardin. Voilà, on avait ce genre de retour. Très souvent, on avait ce genre de retour. Comme si, lui, l'affaire, il pouvait la reprendre à son compte et puis nous contenter à un moment donné en mettant des arbres dans un pot. Ben, on vous fera ça, mes pauvres, en fait. Voilà. On a beaucoup été dans ce type d'humiliation.
Pour répondre à ces humiliations, un orchestre s'est levé. Francis Allais, Georges Fetterman, Alain Baraton. Des bois au sens noble, des instruments vivants. Des souffles légers dans la partition du monde, capables de jouer la patience, la science, la mémoire. Mais en face, les cuivres ont rugi. Trompettes d'acier, corps hurlants des tronçonneuses, percussions de moteurs et de dents mécaniques. La symphonie fut brève, désaccordée d'avance. Un matin de janvier 2016, les 16 tilleuls sont abattus.
Tu étais là lors de l'abattage?
Oui.
Tu avais pu voir ce qui s'est passé?
Oui, on était...
J'imagine déjà la consternation, en fait, des personnes qui étaient mobilisées quand ça s'est passé.
Tu parles de l'abattage?
Oui, de l'abattage.
Tôt.
Comment
en fait,
ça s'est passé?
Ça a commencé tôt. Il devait être 7h du matin. Déjà, tout le monde n'est pas dehors. Oui. Il n'y avait pas énormément de monde. Et puis après, les gens qui sont venus, ils sont restés pour regarder. Mm-hmm. Tout le collectif, le plus possible, était là, présent. Il y a eu France 3 aussi. Il y a eu quand même des gens qui étaient étonnés, estomaqués. D'autres, la municipalité qui était très ironique.
Quand tu dis ironique, c'est-à-dire...
Il y a eu des doigts d'honneur et des
ah,
choses
oui.
comme ça.
Hein. Oula, je ne m'attendais pas à ça.
Oui, non, c'était quand même pas sympathique, pas cordial. Maintenant, il y avait tout un tas de barrières qui encerclaient les 16 tilleuls, donc on était face à face à quelques mètres aussi. Mais il y avait une mission, c'était de tout abattre, et eux, il y avait des sourires narquois. Et ceux qui voulaient défendre, ben, on vous a eu, quoi. Nous, on est les plus forts. Et nous, on a vraiment... Comment vous avez... au prix des 16 tilleuls.
Comment vous avez réagi? Vous étiez...
Ben, comment veux-tu faire?
C'est un peu impuissant.
C'est le pot de terre contre le pot de fer.
Ah, ouais.
Tu peux rien faire. Mmh. Parce que nous, on n'a jamais été avec des moyens violents, en fait. Jamais, jamais. C'est eux qui ont les tronçonneuses, c'est pas toi. En fait, c'est ces armes-là, en fait.
Je trouve ça incroyable que, malgré la connaissance que vous aviez et toutes les personnes importantes que vous avez pu mobiliser, ça n'a pas eu de poids face aux choix politiques, face à l'argent, face
à
la détermination.
Mais parce qu'il n'y a pas eu d'écoute,
en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est nous, les puissants, nous choisissons pour vous dans la ville. Mais en fait, ils oublient que nous aussi, on fait partie de la ville, en fait. C'est ça qui ne va pas, quoi. Mais on avait des étiquettes, hein, forcément, sur le dos. C'est-à-dire qu'on, si on est contre cette municipalité, on n'est pas de leur bord, donc tout ce que l'on pense, c'est contre eux. C'est moi, c'est ce qu'on a vécu.
Alors que c'est un choix pour le vivant. Enfin, c'est pas contre, c'est pour. Moi, je trouve, dans l'idée, c'était pour les habitants, c'était pour le vivant, c'est pour la protection des arbres. Et c'est ça qui était mis en avant.
Ouais.
C'était aussi pour les générations à venir.
Ça fait pas partie de
et ça, c'est... Voilà, c'est pas un discours qui est entendable, en fait.
Non, ça va contre l'évolution de la ville, ça, pour eux. C'est il y a 10 ans, à peu près. Donc, c'était un peu novateur. Maintenant, il y a eu quand même plusieurs manifestations autour des arbres. Les robiniers, quand même, là, près de la cathédrale, ça pouvait être important. Mais la veille, il y avait Macron, Berne et tous ces gens qui venaient voir la belle cathédrale refaite avec son trésor. Mais les arbres qui étaient juste à côté, qui étaient menacés, la place qui allait être refaite, ça n'a pas... C'est pas rentré dans leur tête, quoi.
Ouais, il n'y a pas une mobilisation plus que ça, finalement.
Il y a quand même eu... Les marronniers, c'était une histoire importante.
Aujourd'hui, vous avez entendu ce qui arrive quand l'ombre dérange, quand les arbres deviennent des obstacles, et que la mémoire gêne les projets pressés. Ici, les tilleuls sont tombés au grand jour, mais ailleurs, d'autres arbres tombent en silence, là où l'on regarde moins, là où l'on coupe à l'abri des regards pendant que les pelleteuses rêvent de murs neufs et de maisons effacées. Moi, je tends encore mes feuilles vers le vent, j'envoie mes avertissements invisibles, et je compte ceux qui restent debout, car la prochaine histoire ne se passera pas sur une place. Elle se passera là où l'on abat sans témoin.
14 boulevard Clémenceau, construction de 143 logements. Permis numéro 48, 44...
13 à 19, rue du Docteur Baudin. Construction de 23 logements.
83
permis
rue de
Réverdy. 48,
construction
45,
de 76 logements.
Pour Saint-Jean.
Permis numéro
construction
48,
de 52 logements.
43 888.
Permis numéro 48.
Voie 16.
46,
3 au 5 chantiers de Vert.
Construction de 22 logements.
De 6 maisons.
Permis numéro 83
rue de Réverdy.
Permis numéro
construction 48, de 76 logements. Permis numéro
83 rue de Réverdy. Construction 88. De 76 logements. Permis 48, 43, 88, 8.